Voilà, donc on va continuer notre série sur Ruth. C'est la troisième série sur quatre. Et donc j'ai le privilège et l'honneur de reprendre la suite de Gavin qui avait présenté la première, François la semaine dernière pour la deuxième. Et voilà, nous allons traiter donc le chapitre 3 de Ruth aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que ce matin on a parlé de prison, on a parlé de délivrance, on a parlé de confession de la bouche. Et je crois que dans ce livre, dans ce chapitre 3, on a tous ces ingrédients. Parce que la prison, c'est pas forcément une prison métallique. On peut avoir une prison intérieure, une prison du cœur, on peut avoir une prison de préjugés, de pensées, de tas de choses. On peut être prisonnier sans le savoir. Et on va voir au travers de Ruth aujourd'hui, vivre tel que je suis, ça va être une approche un peu particulière de ce thème, puisque c'est un livre qui est facile à lire, on lit le texte, on comprend bien, donc on va essayer d'aborder quelque chose d'un peu spécial concernant le qui je suis et concernant l'identité, voilà, qui nous concerne tous. Je vous expliquerai un petit peu plus au cours de ces propos. Voilà, je suis très content de vous revoir à nouveau. J'étais absent pendant quelques temps, mais voilà, ça me fait plaisir de revoir des visages connus, moins connus, des visages de revenants, hein, de revenants et de revenantes. Voilà, donc on va passer un bon moment avec le Seigneur, dans la parole de Dieu. Je me perçois que j'ai oublié mes lunettes, donc je vais faire ce que je pourrais pour essayer de lire dans cette petite Bible-là. Mais on va essayer de se débrouiller comme ça. Alors, en préparant cette étude, j'ai repensé à mon enfance. Quand j'étais tout petit, c'était dans la fin des années 60, j'ai été bercé dans les films hollywoodiens. Et parmi ces films, alors je sais pas si vous aimez le cinéma un peu ciné-club, un peu traditionnel, les grands films d'Hollywood, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est le film de Robin des Bois. Alors le fameux Robin des Bois, qui connaît ce film, la version originale de 1938. C'est un petit peu vieux, c'était quand même un film en couleur. C'est quand même un film en couleur. C'est pas le premier. Il y en a eu plein de Robin des Bois. Il y en a eu un qui était en version muette. C'est le premier en Technicolor, etc. Et comme dirait notre ami Eddie Mitchell dans la dernière séance, le film dirigé par, je me souviens plus quel auteur, mais avec l'immense Errol Flynn que vous reconnaissez ici, et avec l'immense, mais la non moins immense, Olivia de Havilland, etc., etc. Enfin voilà, c'est ce film finalement, c'est raconte l'histoire d'un héros au grand cœur. Il y a une belle vertueuse, il y a un sage qui est vertueux, conseiller, un petit Jean, un frère Tuck, etc. Il y a aussi une belle histoire avec un peu de suspense. On ne sait pas tout à fait comment ça va se passer. On se dit qu'il y a peut-être un méchant qui va gagner. Et effectivement, il y a un méchant. Et puis surtout, il y a un lieu magique et exotique. C'est la forêt de Sherwood pour Robin des Bois. Et finalement, ici, dans le livre de Ruth, on a tous les ingrédients d'un grand film d'Hollywood. On a tout ce que je viens de vous citer, on le retrouve. Simplement, le lieu magique, c'est un bon lieu qui sent la paille, qui sent la balle de blé, qui sent l'air de battage. Et finalement, ces ingrédients du film à Oscar vont servir à planter le cadre d'une magnifique histoire dans ce livre de Ruth, qui va préfigurer une autre magnifique histoire qui nous concerne tous dans le futur. Mais je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas vous dévoiler la fin, on va cheminer ensemble. Le message clé de ce chapitre, je vous le donne tout de suite et on y reviendra, c'est que je peux, pas moi, hein, chacun de nous, mais je peux vivre pour Christ tel que je suis. Malgré mes doutes, malgré mon passé, malgré tout ce que j'ai fait, je suis capable de vivre pour Christ et lui donner ma vie. Voilà le message clé du texte. Donc on va le lire. Ruth chapitre 3. Le chapitre n'est pas très long. Noémie, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent? Or, lui-même doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, parfume-toi, puis mets tes plus beaux habits et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. il te dira lui-même ce que tu auras à faire. » Elle lui répondit, « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » Elle descendit jusqu'à l'aire et fit tout ce que sa belle-mère avait ordonné. Boaz mangea et but, et son cœur fut joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité du tas de gerbes. Ruth vint tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme frissonna et se retourna. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as devoir de rachat. » Il dit, « Sois béni de l'Éternel, ma fille, cette dernière remarque de loyauté vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, sois sans crainte, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Maintenant, il est vrai que j'ai devoir de rachat, mais il en existe un plus proche que moi, un autre. Passe ici la nuit, au matin, s'il veut s'acquitter de son devoir de rachat envers toi, c'est bien. » Qu'il s'en acquitte. Mais s'il ne lui plaît pas de s'en acquitter envers toi, moi je m'en acquitterai envers toi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Il se leva avant l'heure où l'on peut se reconnaître l'un l'autre. Boaz se dit, qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'aire. Il dit alors, étends-moi le manteau qui est sur lui et tiens-le bien. Non, sur toi. Étends-moi le manteau qui est sur toi et tiens-le bien. C'est ce qu'elle fit. Et il mesura 6 mesures d'orge dont il la chargea, puis il entra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Noémie dit, « Est-ce toi ma fille ?» Elle lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en me disant, ne retourne pas à vide vers ta belle-mère. » Noémie dit, « Reste ici ma fille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne sera pas tranquille qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Voilà, donc un texte qui est somme toute facile à comprendre. Il n'y a pas de grand mystère, il n'y a pas de fait théologique compliqué. Tout réside dans l'interprétation. Mais on va voir avant ça juste le contenu. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder ce chapitre, comme je vous l'ai dit, sous l'angle de la recherche identitaire. Comment Ruth fait elle-même, au travers de ça, pour trouver son identité, l'assumer et vivre comme elle est. Alors quand je dis vivre pour Christ, c'est une projection, bien sûr. Christ n'était pas là à l'époque, mais vivre pour Dieu. Voilà, on va l'aborder sous cet angle de la recherche identitaire. On va voir dans un premier temps le contexte. Dans quel contexte, on va resituer dans quel contexte on est là dans le livre de Ruth. Et puis après, on va étudier comment Ruth va développer son identité au travers d'un parcours que je vous présenterai, qu'on a développé au sein d'une association chrétienne. Hein, ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus. Et on va utiliser le modèle qu'on a développé pour l'appliquer finalement, de voir comment Ruth peut utiliser ce modèle. Dans un troisième temps, je n'ai pas le retour là de l'écran, c'est peu... Non ? Il n'y aura pas, d'accord. On va voir quel est le rôle des personnages principaux du texte pour aider Ruth. Comment ces gens-là font pour aider Ruth ? Et c'est important que nous-mêmes, on comprenne ce qu'ils font eux, parce qu'on a besoin, on verra comme application, on a besoin de s'aider les uns les autres pour nous aider à développer notre identité pleine en Christ, pour nous engager en Christ. Et enfin, on élargira la perspective, parce que bien sûr, au-delà de ce texte, de cette belle histoire romanesque, etc., ben, se cachent beaucoup d'applications pour nous, hein, puisque vous savez que Jésus est présent du début à la fin de la Bible, et que derrière la parole sacrée, moi c'est quand je lis la Bible, je le disais au groupe jeudi, groupe d'études, derrière la Bible, derrière le texte sacré, je cherche le Seigneur. Où est le Seigneur finalement ? Où il est ? Voilà, une perspective élargie, puis on conclura finalement... En quoi, nous, on est concernés par ce texte ? Qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement ? Voilà ce que je vous propose, donc, comme plan. Alors, tout d'abord, un bref rappel, donc, de là où on en est. Hein. On a vu que le livre de Ruth, c'est un point de départ très catastrophique. Hein. On a parlé de foot tout à l'heure. Vous savez que France Air, catastrophique, hein, point de départ. Mais enfin, ça s'est bien terminé. Hein. Donc, comme le livre de Ruth, l'espoir est là. Alors, il y a 4 personnages dans Ruth, hein, principaux, 4 personnages qui font 4 choix, et derrière ces choix, il y a des enjeux identitaires. Alors, on va regarder. Le premier, c'est Élimélec. Élimélec, c'est quelqu'un qui fait le mauvais choix, malgré son nom. Vous savez que Élimélec, on nous l'a dit, ça veut dire « mon Dieu est roi ». Et pourtant, Élimélec fait le mauvais choix. Il part loin de la face de Dieu, un peu comme Jonas. Et ça va lui coûter cher, parce qu'il ne va pas en revenir. Donc, Élimélec, son identité, vous savez que le nom représente l'identité. Mon identité, c'est mon nom. À tel point que dans l'Ancien Testament, souvent le nom n'était pas donné à la naissance. On appelait par exemple les nouveau-nés, on les appelait fils de leur père, ben quelque chose. On les appelait fils d'eux. Et puis au bout d'un moment, quand on voyait le caractère se dessiner, eh bien on donnait des noms. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup dans la Bible un lien entre le nom et finalement le caractère de la personne. Donc le nom dans la Bible est extrêmement important. Quand Dieu change le nom d'Abraham à 99 ans, tu ne seras plus père élevé, Abraham, mais tu seras appelé Abraham, père d'une multitude, ce nom signifie quelque chose. Ça correspond à la nouvelle identité d'Abraham. Même chose pour Sarah, même chose pour Saul et Paul, même chose pour plein de gens, Céphas, tu seras appelé Pierre, etc. Le nom représente l'identité. Et Élimélec, il porte l'identité de mon Dieu et roi, mais ça ne se manifeste pas dans sa vie, parce qu'il part loin et il n'assume pas cette identité. Je suis un peu perdu là. Je reviens en arrière, c'est pas bon. Oula, excusez-moi. C'est la première fois que j'utilise ça, donc il y a un petit souci technique là, il faut balayer de droite à gauche. Ah voilà, c'est bon. Alors Noémie. Alors Noémie, elle a fait le choix, bon, Noémie ça veut dire agréable, ça veut dire douce, ça veut dire ma princesse, tout un tas de choses comme ça. Elle fait quand même, elle subit le choix de son mari, mais elle fait le choix du retour. Un peu comme le fils prodigue qui touche le fond, et à un moment donné elle voit qu'elle touche le fond, qu'elle n'en peut plus, elle fait le choix du retour. Donc ça déjà c'est un bon choix. Et on l'a vu la dernière fois, François l'a présenté. Elle va être tentée dans son identité de faire le choix de l'amertume. C'est-à-dire, ne m'appelez plus Noémie quand elle revient, appelez-moi, comment ? Mara, qui veut dire amer. Appelez-moi amertume. J'ai envie, je suis tellement malheureuse, je suis tellement bouleversée intérieurement par tout ce qui s'est passé, par les catastrophes que j'ai reçues, que j'ai plus envie de porter ce nom Noémie, de douce, d'agréable, j'ai envie de porter ce nom d'amer. Et pourtant, elle fait le choix au verset 20, et c'est vraiment le passage clé du livre de Ruth. Hein, c'est un point de bascule. On va relire ce verset 20. Hein, François en a parlé la dernière fois. Ce verset 20 où elle dit « Qu'il soit béni de l'Éternel, en parlant de Boaz, « qu'il soit béni de l'Éternel qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. » Vous voyez ? Le fait de confesser de la bouche, il l'a dit Nasser tout à l'heure, le fait de confesser quelque chose de la bouche, quand on parle quelque chose, ça provoque quelque chose. Le fait de confesser, il y a quelque chose qui se passe. Et là, Noémie, au verset 20, elle fait le choix de la confiance et de la confession. Elle avait la tentation de l'amertume, appelez-moi Mara. Et là, elle fait le choix de la confession. Je suis Naomi. Elle fait ce choix de la confession. Et les conséquences de ce choix sont énormes. L'Éternel qui n'a cessé d'être bon envers nous, les vivants, ou bien dans une autre traduction, l'Éternel qui garde sa bonté sur les vivants. La parole est créatrice. Le fait de prononcer quelque chose soi-même amène un changement de perspective. Pour ceux qui lisent les psaumes, il y a énormément de psaumes de David qui commencent mal. Mauvais départ, Seigneur, je n'en peux plus, je suis écrasé, abattu, je suis prêt d'expier, je suis comme un chat errant sur les toits, etc., etc. Et à un moment donné, il y a une bascule dans le psaume. Hein. Je vous cite un psaume, psaume 69, psaume 71, et deux psaumes de la caverne, psaume 56, psaume 142. Vous les lirez, tous ces psaumes, vous avez des bascules, parce qu'à un moment donné, David confesse l'Éternel, il commence à louer l'Éternel, et le fait de louer l'Éternel, même dans les difficultés, ça entraîne un élan vers le haut. Vous comprenez ça ? C'est pas pour rien que Dieu avait dit aux Hébreux qui tournaient autour de Jéricho, poussez des cris, louez l'Éternel. Pourquoi ? Parce que la parole est créatrice, elle a fait s'effondrer les murailles, Et cette parole qui a été créatrice est encore vraie aujourd'hui. Donc quand on est au fond du trou, comme Naomi, à un moment donné, la parole créatrice permet de rebondir. Ce n'est pas un acte de magie, c'est parce que la Bible est construite comme ça, et c'est parce que Dieu nous a construits de cette manière-là. Et là, Naomi nous donne un bon exemple, parce que sa parole, quand il dit « l'Éternel n'a cessé d'être bon », sa parole amène un changement de perspective. Et quand on commence à proclamer son espérance et non ses doutes, alors on change de perspective. On a une autre vision de la situation. Un peu comme Paul et Silas dans la prison. Au lieu de se lamenter en disant « Ah, on n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait peut-être pas dû aller voir les autorités, on n'aurait peut-être pas dû marcher dans la rue, on n'aurait pas dû. » C'est-à-dire, on tombe dans un tourbillon de « j'aurais pas dû ». Eh bien, tant pis, la prison est là, les barreaux sont là, moi je chante, je loue l'Éternel. Ben, on sait ce qui se passe. Vous voyez, c'est pas la perspective, c'est pas la situation qui compte, c'est le regard qu'on porte sur cette situation. Alors nous-mêmes, bien sûr, on ne peut pas porter un regard positif. C'est pour ça qu'on est amené, la Bible nous encourage à tourner vers Dieu, et là, la perspective change. Parce que quand on regarde vers le bas, ben, c'est étriqué ici, c'est tout petit, alors que vers le haut, le regard s'ouvre. Pareil pour les 12 espions. Les 12 espions, ils avaient vu la même chose. Sauf qu'il y en a deux, il y en a 10 qui ont vu quoi ? Des géants, nous on était comme des sauterelles, etc. Perspective. Et il y en a deux qui ont dit, le pays est beau, il y a des grappes énormes et tout, l'Éternel nous le donne, il est à nous. Ils avaient vu la même chose, même image, tous. Sauf qu'il y en a qui voyaient une chose, il y en a d'autres qui voyaient l'autre. Et la foi, c'est un peu ça, c'est quel est le regard que je vais porter ? En tout cas, cet exemple de Noémie nous montre que la confiance se retrouve après avoir loué l'Éternel. Après l'amertume, c'est une lueur d'espoir. Noémie, Ruth, chapitre 2, verset 20. Vous connaissez une autre référence de la Bible qui porte le titre, chapitre 2, verset 20. Pénélope, ça ne dit pas quelque chose ? Devin, quelque chose devin. Non. Exactement, Galate devin, bravo. Galate devin, j'ai été crucifié avec Christ, maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi, c'est plus ma chair, c'est plus mes limitations, mes doutes. J'ai été crucifié, maintenant c'est un autre qui vit, c'est Jésus qui vit au travers de moi. Je ne sais pas s'il y a un clin d'œil de chapitre, hein. Les chapitres ont été rajoutés secondairement par les massorètes. Donc, mais voilà, c'est... Souvenez-vous, Ruth 2:20, c'est la bascule du livre de Noémie. Alors, je n'aurai pas le temps de traiter, mais Noémie est un magnifique chiasme géant, d'accord, qui est centré sur ce texte-là, sur ce verset-là. Hein, et c'est là que ça rebondit. Ok, il faut qu'on avance parce que... Donc Noémie, elle a fait le choix d'assumer son identité. Noémie, ça veut dire princesse, douceur, etc. Et on va voir que ce choix va être capital pour Ruth, parce qu'au chapitre 3, elle va jouer le rôle de conseillère. Alors Ruth, elle va assumer cette nouvelle identité malgré son origine. Je ne vous en dis pas plus. Ruth, vous savez, ça veut dire réconfort. Ruth, ça veut dire réconfort. Et on va le détailler un peu plus là. Je suis juste dans l'introduction et le rappel. Et enfin, le quatrième acteur, c'est Boaz. Alors Boaz, lui, c'est l'homme de l'identité assumée. C'était l'homme de l'identité assumée. Son nom signifie « en lui soit la force ». Et il va réellement se comporter en exemple, en modèle. Et voilà, on finira un petit peu là-dessus, mais je ne vais pas effleurer le sujet de la prochaine fois, puisque Ruth, chapitre 4, va se centrer sur Boaz et c'est Colin qui nous emmènera là-dedans. Voilà donc un petit peu le tableau tel qu'il se présente. Alors je vous ai dit que on va essayer de voir comment Ruth développe son identité. Et on a développé au sein d'une association qui s'appelle ACBDI, une association chrétienne. Finalement, on a essayé de développer un parcours identitaire. Alors cette association, je vous en dis deux mots, mais très rapidement pour vous dire qu'est-ce qu'on fait et en quoi ça va concerner Noémie. Voilà la vocation, voilà la raison d'être. Quelle est notre raison d'être ? Finalement, c'est d'aider les chrétiens à faire tomber leur masque et à s'engager pleinement dans le chemin que Jésus propose pour chacun de nous. Voilà, ça c'est la raison d'être, pourquoi on est là. Ce qui est important, c'est que avant de s'engager dans les œuvres que Dieu a préparées, c'est important de savoir qui on est, de travailler l'être. Parce que si vous ne travaillez pas l'être, vous allez commencer à faire des choses, il faut que je fasse, il faut que je m'engage, etc. Si on n'a pas travaillé l'être, un jour l'être va coincer. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Voilà, j'en dis pas plus. Notre mission, ce pourquoi on est là, c'est d'être un support des églises. C'est d'aider les chrétiens qui en ont besoin. Tout le monde n'en a peut-être pas besoin, mais en tout cas, pour ceux qui en ont besoin, on est là au travers... Alors, on ne propose pas des formations. Ce n'est pas la formation qui va changer le cœur des gens. On propose vraiment un travail de transformation basé sur la parole de Dieu, basé sur les interactions, sur l'échange, basé sur des moments d'échange authentiques. Je vous en reparlerai, ce n'est pas le lieu ici, hein. Tout ça pour vous dire qu'au sein de l'association, on a développé un parcours identitaire. Alors pourquoi donc cette association? Alors, on a pris l'analogie de la pyramide. Ce n'est pas l'idolâtrie égyptienne qui nous a conduits, c'est plutôt le fait qu'une pyramide, c'est un ensemble bien construit, géométrique et qui est simple, qui nous sert à illustrer le pourquoi. Il faut savoir qu'un être humain, la Bible nous dit qu'un être humain qui n'est pas régénéré par le sang de Christ, il est brisé en mille morceaux par le péché. Il est comme ça. Comment faire pour qu'un être humain ressemble à une pyramide bien construite? C'est pas facile. Ça se fait pas d'un clin d'œil. Alors souvent, ce que l'être humain, quand il est comme ça, il aime pas se montrer comme ça. De la même façon qu'Adam, après avoir péché, il s'est caché. Donc l'être humain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se construire des enveloppes, il va se construire des masques, il va essayer de cacher cet état. Quand je dis cet état, c'est le mien, le vôtre, tel qu'on était avant d'être brisé. Voilà. Et finalement, l'enjeu, c'est comment être soi-même pour pouvoir s'engager dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Parce que si on est chrétien, moi, j'appartiens au Seigneur et je suis persuadé que Dieu, il a un plan pour ma vie particulier, comme il a un plan pour votre vie à chacun. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là pour rien, en gros. Et d'ailleurs, c'est une des recherches fondamentales de l'être humain, à quoi je sers, finalement. Comment être soi-même? Eh bien, on propose un parcours identitaire pour reconstruire la pyramide. Et ce que je vous propose, c'est de parcourir ce parcours au travers de l'exemple de Ruth, au travers de ce chapitre 3. Alors, on va reprendre l'idée de la pyramide. Voilà, c'est une pyramide vue de dessus. Et dans une pyramide, vous avez donc une base, d'accord, hein, alors on est en perspective, on a la base. Et vous avez également un sommet, d'accord. Jusque-là, c'est simple à comprendre. On va dire que pour qu'une pyramide soit parfaite ou correcte, le sommet, c'est le Seigneur. Hein. Je vous ai mis ce verset, c'est le verset qui sous-tend le démarrage de notre travail. C'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » C'est vraiment la question du scribe, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut, quel est le plus grand commandement? Donc le Seigneur, il est au sommet de la pyramide. C'est lui qui tient tout, c'est lui qui permet à la pyramide d'exister. Sinon, il n'y aura pas de pyramide. Et nous, bien entendu, nous sommes en bas. Voilà. Un autre exemple, une autre perspective, vous voyez, on est en bas, et Ruth, elle est là. Elle est moabite, elle connaît pas le peuple de Dieu, elle fait partie d'un peuple qui est rejeté. Hein, l'ammonite et le moabite n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Voilà. Et donc, il y a une séparation. Et l'être humain, tout être humain est comme ça. Il est séparé. Vous voyez, les faces de la pyramide sont défaites, Dieu n'est pas là, et Dieu n'est pas dans la vie des gens, donc les gens essayent de se construire des choses comme ils peuvent. Donc la première étape pour Ruth, c'est la réconciliation. Alors ça, il faut comprendre ça, c'est très important. Hein, Paul dit aux Romains, le dernier verset de Romains 4, « Christ est mort pour nos péchés, et ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. » C'est un élément basique pour comprendre la réconciliation avec Dieu. Et Ruth, au chapitre 2, au chapitre 1, verset 16, lorsqu'elle confesse, encore une fois la confession, lorsqu'elle confesse « Ton Dieu sera mon Dieu », elle comprend que tous les dieux de Moab, les Kémoches et compagnie, c'était du vent, et que le vrai Dieu, c'était le Dieu d'Israël. Et donc là, elle se réconcilie avec Dieu. On verra que le parcours identitaire est une série de réconciliations. Mais la première, c'est la réconciliation avec Dieu. Si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, si ici-bas, ce matin, quelqu'un n'est pas réconcilié avec Dieu, c'est la première étape vers le cheminement vers son identité. Une fois qu'on est réconcilié avec Dieu, il y a une deuxième étape. La deuxième étape, c'est comprendre qui est Dieu. Et ça, c'est la fameuse question que Jésus pose à Pierre. Donc là, je reviens déjà vers le Nouveau Testament, je fais un petit mélange, mais vous comprendrez. Qui dites-vous que je suis ? C'est-à-dire, qui est Dieu ? Et Noémie, elle est passée par là. Le Dieu, ce n'était pas Kémosh, c'était le Dieu d'Israël. Elle a répondu à cette question. Qui est Dieu ? C'est le Dieu d'Israël. Bien sûr, elle ne connaissait pas grand-chose, mais peut-être les peuples avaient entendu parler aussi, il y avait une transmission orale, etc. Donc elle savait qui était Dieu et elle avait décidé de l'embrasser. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ça c'est la première réconciliation avec l'image qu'on a de Dieu. Alors, je n'ai pas le temps de détailler, mais même chez les chrétiens aujourd'hui, on s'aperçoit que l'image du Père terrestre influe énormément sur l'image qu'on a de Dieu. Par exemple, moi j'ai rencontré des chrétiens qui voyaient Dieu comme un Dieu punisseur, un Dieu Père fouettard. Et en discutant un petit peu, on s'aperçoit que le Père était très sévère et que voilà, ils avaient plaqué quelque part l'image du Père sur la véritable image de Dieu. Donc en fait, pour eux, Dieu était quelqu'un qui punissait. À la base, c'était un Dieu punisseur. Ils avaient du mal à comprendre la grâce, la bonté, la miséricorde, tout ce qui est écrit dans la Bible, parce qu'il y avait ce nœud à lever. C'est un peu le but de l'association, c'est que, voilà, en accompagnant les gens sur une période assez longue, il faut du temps, eh bien, on arrive à lever des nœuds comme ça, et de réconcilier les gens avec la réelle image de Dieu. La deuxième réconciliation, qui est très importante, c'est la réconciliation avec son histoire de vie. Là, le verset qui sous-tend notre travail, c'est le verset de Genèse 45. Joseph qui dit à ses frères, « Ce n'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé. » Ça, c'est un signe de réconciliation. La réconciliation avec son histoire de vie, c'est de comprendre que ce qui m'est arrivé dans mon histoire n'est pas le fruit du hasard. C'est que Dieu dirige toute chose et qu'à un moment donné, on doit comprendre que la main de Dieu est derrière chacun des enfants, quel que soit ce qu'il a vécu. En d'autres termes, j'aime bien une citation qui dit « Dieu ne gaspille jamais une expérience avec chacun de nous ». Pour Ruth, son histoire de vie est compliquée. C'est une Moabite. On connaît l'origine des Moabites, je ne reviens pas là-dessus, Gavin en a parlé à la première étude. Les Moabites sont interdits de rentrer dans l'Assemblée d'Israël. Et malgré ça, Ruth assume cette identité, malgré cette origine. Elle assume son nom de réconfort, elle décide de rester auprès de Naomi, bien qu'elle soit l'épouse de Monsieur Malade, Malon. Elle s'appelle Réconfort, elle est l'épouse de Malon. Donc peut-être qu'elle s'est posé des questions, mais pourquoi Dieu m'a donné machin, quelqu'un de malade, etc. Et à un moment donné, elle assume cette identité. Oui, je suis Réconfort. Dieu m'a mis à côté de Réconfort pendant quelques années. Malade et mort. Maintenant, je me retrouve seul. Je continue à être un Réconfort. Et elle continue son rôle. Elle assume son identité, son plan de vie, on verra plus tard. Elle assume son plan de vie auprès de Naomi. Elle réconforte Naomi par son action et après, c'est extraordinaire ce qui se passe. Au verset 2, chapitre 2, verset 10, « Moi qui ne suis qu'une étrangère. » Verset 2, 13, « Tu m'accueilles avec tant de faveur, dit-elle à Boaz, que j'en suis réconfortée. » Vous en rendez compte ? Réconfort, dit à Boaz, « Je suis réconforté par toi. » C'est beau, ça. Et le comportement de Boaz est important ici aussi. Donc voici l'histoire de quelqu'un qui était mal parti dans sa vie et qui assume son identité. « Je suis Ruth, réconfort. Mon but dans la vie, c'est de réconforter. Et je vais rentrer là-dedans, malgré mes doutes, malgré mon ancienneté, malgré les gens qui devaient porter des regards négatifs sur moi. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait, cette Moabite? Vous savez, il y a toujours des gens qui vont vous faire des petits commentaires racistes, etc. Elle a certainement dû avoir des quolibets de ce genre, même si la Bible ne nous en parle pas. Voilà, donc, la deuxième étape, c'est réconcilier avec son histoire de vie. Assumer le fait qu'elle est une étrangère. Elle le dit. Et ce qui est beau au verset 3, c'est que lorsque Boaz lui demande « Qui es-tu ?» On y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Est-ce qu'elle lui répond « Je suis Ruth la Moabite » Vous avez 6 ou 7 fois dans le tout le passage, tout le livre, « Ruth la Moabite, Ruth la Moabite, Ruth la Moabite ». Vous le lirez, je ne cite pas tous les versets. Elle lui répond « Je suis Ruth ta servante ». C'est fini, il n'y a plus de Moabite. Ça nous montre qu'elle a assumé son rôle. La troisième étape, quand j'ai été réconcilié avec mon histoire de vie, alors je vais vite, mais parfois ça prend 6 mois, 1 an quand on travaille avec les personnes, hein, de réconcilier, parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins lourdes dans la vie. La troisième étape, c'est le suspense. La troisième étape, c'est de comprendre qui je suis en Jésus-Christ. Et ça, la référence, c'est le verset d'Exode 20. Lorsque Dieu se présente, j'étais dimanche dernier à l'église de Rézé, et j'entendais donc une prédication au cours du culte, et en fait, la personne a présenté le premier commandement comme « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Eh bien, c'est faux, parce que le premier des commandements, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». C'est-à-dire que Dieu nous donne un modèle en disant « Je suis l'Éternel ». Il assume son identité d'Éternel et ensuite il dit ce qu'il a fait. Eh bien, comprendre qui je suis, comment je suis fait, quels sont mes dons, c'est quelque chose de très important. Et je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable, comme Dieu, de vous présenter en disant « Je suis un tel et voilà ce que je fais, voilà mes dons, Dieu m'a donné ça comme don, voilà mon engagement, voilà où je me situe, voilà mon projet de vie, voilà ce à quoi je sers dans la vie ». Et voilà ce sur quoi Dieu va me demander des comptes. Est-ce que vous êtes capable de le faire ou pas? Je n'attends pas de réponse, mais chacun réfléchissez à ça. En tout cas, qui Ruth est en Dieu, elle l'a confessé au verset 1, chapitre 1, verset 16. « Ton peuple sera mon peuple. » Elle va s'identifier par la foi au peuple d'Israël. Pas par les circonstances qui lui disaient « T'es une Moabite, t'as pas le droit de rentrer », mais « Ton peuple sera mon peuple ». Chapitre 1, verset 17, qu'est-ce qu'elle dit ?« J'y serai enterré ». Quand elle dit « Je vais te suivre », à Naomi, « J'y serai enterré ». Ça veut dire qu'elle se projette sur un avenir lointain et elle dit « C'est là-bas que je serai enterré ». « Que Dieu me traite selon la plus grande sévérité ». Ruth respecte la sainteté de Dieu, comprend que Dieu est un Dieu qu'on ne prend pas à la légère. Donc tout ça nous montre qu'à un moment donné, elle a compris qui elle est en Jésus-Christ. Et la conséquence de ces déclarations, parce que tout ça, ça a été confessé avec la bouche, les conséquences de ces déclarations, eh bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsque Boaz lui demande « Qui es-tu ?», elle répond « Je suis Ruth, ta servante ». Elle ne dit pas « Je suis la Moabite », elle lui dit « Je suis réconfort ». Elle répond à Boaz « Je suis réconfort, je ne regarde pas ton apparence de vieillard ». Il va lui dire, Boaz, tu aurais pu choisir quelqu'un de plus jeune, etc. Elle dit, non, je ne regarde pas à ton apparence de vieillard. Moi, je suis réconfort, je m'appelle réconfort, et je serai ton réconfort à toi. C'est extraordinaire, quand on lit ça, c'est extraordinaire. Et puis, je suis Ruth, ta servante. Alors ça, c'est magnifique aussi. Parce que le mot qui est utilisé ici en hébreu, c'est réellement une esclave femme. Hein, vous savez que dans le Nouveau Testament, par exemple, le mot serviteur, il y a 2 mots pour désigner le serviteur. Hein. Il y a le diakonos, le diacre, celui qui fait des services. Et il y a un autre mot qui est plus fort encore, qui est l'esclave, le doulos. Hein, par exemple, dans l'Apocalypse, lorsque Jean parle de « Je suis Jean, ton serviteur », il dit « Je suis Jean, ton doulos ». Jean, très âgé, il a compris que de toute façon, il n'était rien et qu'il était là pour servir. Lorsque Paul se présente dans ses lettres, l'introduction de ses lettres, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ » et il dit « serviteur de Jésus-Christ » aussi. Et le serviteur, c'est le mot « doulos » qui est utilisé, le mot « esclave ». Eh bien, ce que dit Ruth ici, c'est « Je suis ton esclave ». C'est le même mot qui est utilisé lorsqu'il est parlé, le même mot hébreu qui est utilisé lorsqu'on parle d'Agar, servante d'Abraham, Bila, Zilpa, toutes les servantes, c'est le mot esclave. Donc ici, elle se présente comme l'esclave de Boaz. Alors, on pourrait dire, mais bon, à l'époque, les femmes étaient méprisées, etc., mais ce n'était pas un esclavage de maîtrise, c'était une soumission volontaire. Comme nous, lorsqu'on se dit esclave de Jésus-Christ, on est heureux de se soumettre à Jésus, parce qu'on sait qu'on a un maître bon. Et là, Ruth, elle a compris que non seulement elle est rentrée dans le peuple de Dieu, mais elle assume qui elle assume qu'elle est esclave de ce personnage finalement extraordinaire, on verra tout à l'heure ses caractéristiques, mais elle assume son rôle de servante. Et puis, ce qui est magnifique aussi, alors, on va passer au verset 11, parce que vous voyez, moi, il y a des choses qui me font pleurer là-dedans. Boaz lui dit, « Ma fille, sois sans crainte, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. » On pourrait parler longtemps de la femme de valeur, on pourrait aller voir Proverbe 31. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que le mot hébreu qui est utilisé, c'est le mot « haïl » ici, qui signifie « vaillant, valeureux, vertueux ». Eh bien, c'est le même mot, tenez-vous bien, prenez vos Bibles, au chapitre 2, verset 1. Prenez vos Bibles, soulignez ce mot, chapitre 2, verset 1. Noémie avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec qui se nommait Boaz. Eh bien, le mot puissant et riche, c'est le même mot que tu es une femme de valeur, c'est le mot haïl. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce texte, Boaz et Ruth sont de la même nature. Quelqu'un de vertueux, quelqu'un de valeur, de puissant. Et pourtant, elle est une esclave. Ça veut dire que ce n'est pas la soumission qui donne la force et la puissance et la valeur. C'est pas la force, c'est pas la mise en valeur, c'est pas faire étalage de tout ce qu'on est qui donne la valeur. C'est le caractère. Et ici, on voit que le caractère de Boaz et le caractère de Ruth sont les mêmes. C'est le même mot au chapitre 2, verset 1, et ici, au chapitre 3, verset 11, femme de valeur. Ils sont de la même trempe, ils sont dans la même nature. Ce n'est pas pour rien qu'ils vont se rencontrer. Il y en a un qui est âgé, l'autre qui est jeune. Il y en a un qui est respecté, etc., qui a plein de qualités, qui les exprime, l'autre qui est une étrangère, une moabite. Mais dans le plan de Dieu, Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas à l'origine, il ne regarde pas au masque qu'on porte. Il regarde à ce qu'on a dans notre cœur. Et Dieu va mettre les deux personnes ensemble, Boaz et Ruth, parce qu'il a un plan éternel et un plan merveilleux. Voilà, et puis la dernière étape, j'ai pas beaucoup de temps parce que ça avance. Le temps court, alors je vais aller assez vite, zut, je pars pas dans le bon sens. Juste pour terminer la pyramide. Une fois qu'on a compris qui on était, ben la dernière étape, bien entendu, c'est de rentrer dans les œuvres préparées d'avance. Et Naomi va rentrer dans ses œuvres. Chapitre 3, verset 5, qu'est-ce qu'elle dit à... c'est Ruth. Ruth va rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et elles sont belles, ces œuvres. D'abord, elle est soumise à Naomi. Naomi lui donne un conseil judicieux. Pourquoi elle peut lui donner un conseil judicieux? Parce qu'elle-même, elle a fait cette transformation identitaire. Elle a refusé Mara, elle a pris Naomi. Et qu'est-ce que dit Ruth? Je ferai tout ce que tu m'as dit. Je ferai tout ce que tu m'as dit. Alors là, c'est pareil aussi, on pourrait faire plein de parallèles. Hein. Quand Naomi dit, il te dira lui-même ce que tu auras à faire. Ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle pas un verset, ça, dans le Nouveau Testament? Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. Les noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Commencez à voir le parallèle. Parce que là, il y a vraiment, on parlera des types de Jésus, j'aurai peut-être pas le temps de l'aborder, mais Colin en parlera. Je ferai tout ce que tu m'as dit, d'accord? Il te dira ce que tu auras à faire, et je ferai tout ce que tu me dis. C'est l'attitude de soumission, hein, c'est l'attitude de soumission de quelqu'un qui a vraiment compris son identité, qui est prêt à rentrer dans les œuvres. Et ça, on pourrait citer le « je ferai tout ce que tu m'as dit », ça veut dire « je t'obéirai ». Ça veut dire que je suis ton esclave et je suis soumis à ce que tu me dis. Et ça, le Nouveau Testament nous enseigne qu'on ne peut pas aimer Jésus si on n'est pas soumis à ses commandements. Jean 14, 21, vous connaissez? Qui connaît Jean 14, 21? Non. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Donc aimer Jésus, c'est garder ses commandements. C'est obéir à sa parole, ni plus ni moins. Elle est soumise à lui. Je ferai tout ce que tu m'as dit. Verset 2, chapitre 2, verset 9. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. Pareil, soumission de Ruth à Boaz, elle assume son identité. Elle rentre dans les œuvres préparées d'avance. Et quelles sont les œuvres de Ruth finalement? Quelle est l'œuvre que Ruth va produire dans sa vie? L'œuvre majeure qu'elle va produire dans sa vie. J'anticipe sur le chapitre 4. Elle sera la mère d'Obed, d'accord? Qui sera donc Obed qui va engendrer Isaïe, qui va engendrer David, qui va engendrer le Messie. Ni plus ni moins. Une Moabite, une étrangère, qui comprend qu'elle est réconciliée avec Dieu, elle comprend que Dieu est son Dieu, elle comprend que son histoire de vie a un sens, qu'elle n'est pas juste le fruit du hasard, elle comprend qui elle comprend qu'elle a un rôle d'esclave, de soumission, d'obéissance. Elle rentre dans les œuvres, elle obéit à Dieu, elle porte du fruit et elle engendre le Messie. Voilà le trajet identitaire de Ruth. Alors le temps passe, j'ai pas le temps de je l'ai abordé vaguement, le rôle des deux personnages, Naomi et Boaz, le rôle que ces deux personnages ont joué sont capitales par leur posture, par leur attitude. On a déjà vu Boaz, donc cette similitude, l'adjectif qui le caractérise, le même que celui de Naomi. Je reviens pas là-dessus. L'application pour nous, l'application néo-testamentaire, c'est que Boaz est un type de Jésus-Christ. Vous êtes familier avec ça? Qu'est-ce qu'un type de Jésus-Christ? Ben, un type de Jésus-Christ, c'est juste quelqu'un qui... je vais laisser mon PowerPoint parce que de toute façon, je n'aurai pas le temps de traiter les trucs. Mais un type de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a certaines caractéristiques. On l'a déjà vu, voilà. Certaines caractéristiques de Jésus, pas toutes, mais certaines caractéristiques. Il a une qualité d'être, de leader. Il a ni beauté ni éclat extérieur, il est âgé, il attire pas les jeunes filles apparemment. Il a une beauté intérieure, il dit lui-même ce qu'il a à faire, d'accord? Il a un droit de rachat, donc là aussi je ne parle pas du Lévirat, on en reparlera la prochaine fois. Il promet pour œuvrer efficacement. Pourquoi il va œuvrer, Boaz? Pour effacer l'acte légal de celui qui a des droits sur Naomi. Ça vous rappelle rien ça? Quelqu'un qui œuvre pour effacer l'acte légal. Il représente l'espérance des délaissés. Il rassure Naomi, ne crains point, etc., etc. Voilà, donc Boaz est un type de Jésus-Christ. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bon, je saute plein de trucs parce que, voilà, il faut terminer. Mais dans un contexte défavorable, il faut se rappeler que le livre de Ruth, c'est dans un contexte où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc c'était la débandade, le livre des juges. Eh bien, on a une personne qui nous donne un exemple, une étrangère, qui développe son identité en Christ, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais quelqu'un qui ne se laisse pas aller aux circonstances, malgré son origine, elle est prête à assumer son identité en Christ. Et finalement, nous, qu'est-ce qu'on peut en tirer au XXIe siècle? On est un peu comme Ruth, nous. C'est-à-dire, malgré notre identité de pécheur, il faudrait que je parle de ça aussi, que Ruth est un type de l'Église, c'est un type de l'Église, c'est-à-dire que Ruth, et c'est ça la belle histoire finalement, au-delà de Robin des Bois, ce que je vous ai dit au début, c'est que Ruth, c'est le type de l'Église. Vous voyez, je vous ai mis quelques versets ici du Nouveau Testament, qui pointent vers les noces de l'agneau. Et finalement, cette union entre Boaz et Ruth, qui sont de la même nature, nous rappelle qu'un jour, nous serons unis à Jésus, et nous serons de la même nature que lui, parce que nous serons semblables à lui, nous le verrons tel qu'il est. Et je vous ai mis donc ce verset de l'Apocalypse. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Bien, malgré notre identité de pécheur, cette identité qui a hérité d'Adam, nous avons le choix d'endosser cette nouvelle identité en Christ. Et 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Peu importe ce qui est inscrit en nous, peu importe ce que les gens disent de nous, peu importe ce que le monde dit de nous. Vous connaissez Yabetz dans l'Ancien Testament? Yabetz, ça veut dire douleur. À un moment donné, Jabez, il n'a pas accepté ce nom que lui a donné sa mère. Et il a dit, Seigneur, si tu me bénis, eh bien, je serai quelqu'un d'autre. Il a crié à Dieu et Dieu l'a béni. Donc, peu importe ce qui est inscrit sur nous, peu importe notre identité, peu importe notre passé, notre histoire de vie, ce que les gens disent, ce qu'ils ont programmé pour nous, on peut être libre en Christ d'assumer l'identité qu'on a. Parce que la Bible nous dit, au psaume 139, qu'on est une créature merveilleuse, qu'on est au service du Seigneur, qu'on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, comme à Boaz, au chapitre 3, au verset 9, Dieu va nous demander, mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Ou qui veux-tu assumer d'être ? Et aujourd'hui, c'est à nous de répondre, chacun de nous. Qui es-tu ? Ésaïe, par exemple, a répondu, me voici, envoie-moi. Ruth a répondu, je suis Ruth, réconfort, je suis ta servante. Et moi, qu'est-ce que je vais répondre à ça ? Et j'en reviens à mon message clé que je vous disais au départ, c'est qu'aujourd'hui, chacun de nous, moi, toi, chacun de nous, tu peux vivre pour Christ tel que tu es, si tu assumes ton identité, si tu comprends les dons que tu as, si tu les mets au service, si tu es obéissant comme Ruth, tu peux te mettre au service du Seigneur et assumer cette identité qui te donnera beaucoup de paix en Christ et beaucoup de bienveillance. Voilà. On peut passer une petite vidéo, peut-être en 2 minutes, c'est possible. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire avec le téléphone. Je vais quand même essayer, mais non. Vous pouvez la lancer.
Et c'est vrai, c'est ce message d'identité, c'est très important et moi, ça me parle beaucoup.